Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour.
Vous êtes neuroscientifique, professeur de psychologie cognitive expérimentale au Collège de France. Et pour ce qui nous intéresse notamment ce matin, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Faut-il rappeler que vous êtes le spécialiste en France des neurones de l'écriture. Vous l'avez théorisé dans un livre précédent. Alors comment apprenons-nous? Comment apprendre à l'école? Et quel peut être l'apport des neurosciences? Eh bien, c'est l'objet de votre dernier livre que vous avez dirigé avec d'autres scientifiques du Conseil scientifique de l'éducation nationale, cette entité mise en place il y a 2 ans par le ministre Jean-Michel Blanquer, « La science au service de l'école ». C'est donc le titre de ce dernier livre qui paraît chez Odile Jacob. Pour commencer, Stanislas Dehaene, quelle est votre définition du mot « apprendre » chez l'homme ?
Apprendre, ça veut dire internaliser, amener dans notre cerveau un modèle du monde extérieur dans un certain domaine. En fait, notre cerveau emmène avec lui en permanence une représentation d'un domaine particulier. Par exemple, un modèle de l'espace autour de nous. Nous pouvons fermer les yeux et imaginer que nous naviguons dans notre appartement. Mais nous avons aussi des modèles mentaux de la langue que nous parlons à tous les niveaux, le lexique, la syntaxe, la compréhension. Et donc, apprendre, c'est modifier ces paramètres, se rendre compte que le modèle n'est pas parfait, donc détecter une erreur, le statut de l'erreur est extrêmement important.
On va en parler après, oui.
Quand on détecte une erreur, notre cerveau propage ce message d'erreur et va mettre à jour ses représentations.
Il faut que le bambin tombe pour comprendre qu'il est tombé et donc tenir debout. Tous les êtres vivants sur Terre, de tous les êtres vivants, c'est bien l'homme qui apprend le plus rapidement. En quoi apprenons-nous, les humains, différemment des animaux ?
Alors ça, j'essaie d'expliquer ça dans mon livre précédent, oui. Apprendre, hein. C'est le cerveau humain a visiblement des capacités tout à fait exceptionnelles. Et c'est pour cela aussi que notre période d'enfance est tellement étendue, hein, s'étend sur une vingtaine d'années, très différent des autres espèces de primates. Sans doute parce que nos modèles mentaux incluent des représentations beaucoup plus élaborées de la combinaison des éléments entre eux, une sorte de langage mental. La capacité de langage parlé, évidemment, tout à fait particulière à l'espèce humaine, mais en plus du langage que nous utilisons pour communiquer, il y a un langage interne dans notre cerveau qui nous permet, par exemple, de faire de la science.
Et la capacité d'invention aussi, ça compte.
Bien
alors
sûr.
Que chez les animaux, c'est plutôt la répétition.
Mais inventer, ça veut dire projeter un modèle mental nouveau. Et on voit que même les tout petits enfants, et on parle vraiment d'enfants d'un an, 2 ans, ils ont déjà cette capacité d'être des scientifiques en herbe. Il ne faut pas sous-estimer ces capacités.
Alors apprendre, ça dépend aussi de la capacité pour d'autres à transmettre le savoir. Ça passe, dites-vous, par la métacognition de l'élève. Encore faut-il que l'enseignant soit capable de appréhender et d'identifier ça chez l'élève? Quelle est donc cette métacognition qui est l'un des chapitres importants de votre livre?
Oui, il y a un chapitre dans le livre de Joël Proust important sur ce sujet parce que c'est un des leviers très importants de l'apprentissage et notamment un blocage aussi pour les décrocheurs. Alors la métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de savoir des choses sur nous-mêmes. Savoir en particulier qu'on ne sait pas et avoir le courage de s'engager dans l'apprentissage en mobilisant toutes nos ressources. Si vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous lancer dans un apprentissage difficile, je ne sais pas, apprendre à jouer du violon. Il va falloir d'abord avoir envie, donc que ça ne soit pas imposé de l'extérieur. Il va falloir envie de faire effort. Donc avoir un modèle de la quantité d'efforts qu'il faut faire. Il y a des élèves qui pensent que s'ils doivent faire un effort, c'est qu'ils sont nuls. Voyez. Donc il va falloir aussi continuer de s'engager, ce que j'appelle l'automatisation, ce pilier de l'apprentissage, donc jour après jour. Et ça veut dire penser qu'on va réussir.
Alors, il y a aussi le plaisir et la confiance en soi.
Et la confiance en soi, ça fait une partie vraiment intime de cette métacognition. Alors la métacognition, c'est en grande partie un modèle inconscient de ce que nous croyons être capables de faire. Et il y a un certain nombre d'élèves qui pensent à la fois par des biais sociaux et puis aussi par leur expérience personnelle, qu'ils ne peuvent pas y arriver. Ils ont toute l'évidence pour cela, puisque progressivement, ils se sont rendus compte qu'à chaque fois qu'ils allaient en cours de maths, par exemple, ils avaient une mauvaise note, malgré leurs efforts, qui n'étaient pas encouragés. Alors, il y a des gestes pédagogiques que l'on peut conseiller aux enseignants pour restaurer une métacognition favorable.
Alors justement, quels sont ces gestes pédagogiques appuyés sur cette métacognition que vous souhaitez que les les enseignants s'emparent?
Bah, d'abord, c'est une école bienveillante. Ce sont des comportements, d'ailleurs verbaux et non-verbaux, qui sont positifs, qui sont pour encourager l'élève. C'est aussi une notation qui ne porte pas tellement sur le niveau absolu de l'élève, mais sur la quantité d'investissement. Vous voyez, ses progrès, ses efforts.
On change le sens de la note.
Absolument.
Et qui sanctionne.
Et de l'évaluation. Donc, c'est une évaluation positive qui cherche à encourager les élèves plutôt qu'à les décourager parce qu'ils n'ont pas encore atteint le niveau.
Ça, c'est à l'américaine. Hein, c'est
oui, dans une certaine mesure, oui. On peut dire ça. L'école américaine est peut-être un peu excessive dans cette notion de confiance en soi, mais enfin, c'est très important. C'est un déterminant de l'apprentissage. Et ça veut dire aussi développer une mentalité qu'on appelle progressiste. On peut avoir deux mentalités vis-à-vis de l'apprentissage. Il y a une mentalité fixiste qui est je suis doué ou je ne suis pas doué. Et il y a des enfants doués, alors ils y arrivent tout seuls. Ça n'est pas vrai. C'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Et il faut qu'on adopte tous une mentalité progressiste qui est tout le monde peut y arriver. Simplement, tout le monde doit faire des efforts. Et c'est absolument normal de devoir faire des efforts et devoir répéter jour après jour. Et quand on le fait, on y arrive. C'est la mentalité du professeur de musique. C'est très bien que tous les enfants de l'orchestre peuvent y arriver. Il y a une action formidable en France qui s'appelle Orchestre à l'école, où on prend des classes lambda et tous les enfants vont faire partie de l'orchestre à la fin de l'année. Eh bien, cette mentalité-là, vous voyez, si tout le monde l'a, on peut vraiment progresser. Il y a des recherches expérimentales qui montrent que le simple fait d'expliquer aux enfants que ça marche comme ça, ça conduit à des résultats scolaires positifs.
Donc cette métacognition, finalement, son ambition, c'est de rendre l'élève, autonome dans ses choix de solutions possibles. C'est ça l'ambition.
Alors, l'autonomie est importante, mais aussi le sentiment métacognitif de pouvoir y arriver. Vous voyez. L'autonomie, effectivement, parce que l'autonomie permet à l'élève de choisir des exercices, par exemple, dans une période particulière de la classe. Et quand on choisit soi-même ses exercices, d'abord, on est motivé de façon intrinsèque. Et puis on choisit spontanément des choses qui sont à sa hauteur. Et ça restaure ce sentiment d'efficacité, d'auto-efficacité.
Alors vous rappelez dans ce livre que j'ai sous les yeux, donc La science au service de l'école, vous rappelez votre inquiétude sur notre système éducatif, un système scolaire à la fois peu efficace et inégalitaire, et ça dure comme ça depuis une quinzaine d'années. C'est ce qu'a d'ailleurs confirmé la dernière étude internationale sur 80 pays PISA. Pourquoi a-t-on autant de mal à expliquer, à justifier ce déclin précisément ?
Le système scolaire invite le scientifique à l'humilité, parce que c'est un énorme système très complexe, il y a énormément de paramètres, et d'ailleurs, c'est absolument faux de penser que seuls les enseignants sont en cause, c'est la société tout entière, certainement.
Donc, oui, parce que parmi les... Alors, vous citez évidemment l'omniprésence du numérique, et vous citez, pour expliquer ce déclin de la scolarité, de façon plus surprenante, la diminution des fratries, c'est-à-dire...
C'est très important, en tout cas, que les élèves collaborent entre eux. Alors, peut-être, c'est une spéculation, mais c'est vrai que les familles sont devenues plus petites, et donc peut-être il y a un peu moins de soutien, en tout cas d'émulation au sein de la famille. Mais pour revenir à l'enquête PISA que vous mentionniez, qui est à 15 ans, les élèves mentionnent par exemple qu'ils ne collaborent pas tellement entre eux. Moins que dans les autres pays de l'OCDE. C'est une caractéristique de notre école. Notre école est profondément inégalitaire. Elle a tendance à créer des élèves très bons et puis d'autres élèves vraiment décrocheurs, très mauvais et un taux d'illettrisme qui est inacceptable. Pour moi, c'est la grande difficulté sur laquelle vraiment le conseil scientifique s'engage, les inégalités.
Mais sur les inégalités sociales, pourquoi est-ce que l'école n'arrive plus précisément à les compenser alors que dans certains pays, dans de mêmes conditions, vous parlez de l'Angleterre ou de la Pologne, ça marche beaucoup mieux ?
Il faut qu'on essaye de comprendre, évidemment. Un des facteurs, c'est vraiment cette métacognition. Dans le chapitre sur la métacognition, je voudrais vous donner un exemple très concret, par exemple. Il est montré par des expériences que ça n'est pas une bonne idée d'interroger les élèves en classe entière. Vous savez, levez le doigt si vous avez la réponse. Ça aide les élèves qui sont bons. Mais ça, en fait, ça enfonce les élèves qui sont en difficulté. Et même s'ils savent à l'avance qu'ils risquent d'être interrogés, ils perdent leurs moyens et ils ont tendance à moins travailler. Donc, il y a des gestes très simples comme ça qui créent une école en fait inégalitaire, sans même qu'on s'en aperçoive de façon presque inconsciente. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur la confiance en soi. Vous allez au Danemark, par exemple, les pays du Nord ont d'excellents résultats. La première année est consacrée, bien sûr, à apprendre à lire, à calculer, mais surtout à avoir confiance en soi. Il faut que ce soit une école où les élèves se sentent bien, savent qu'ils vont apprendre.
Donc il faut former peut-être aussi les maîtres à ça.
Bien sûr. Alors, d'ailleurs, moi, je vois l'action de notre conseil scientifique comme essentiellement un travail de formation. Ce sont des résultats scientifiques qui sont, dans une grande mesure, connus depuis parfois une vingtaine d'années. La science de la lecture, c'est très ancien, on le rappelle dans ce livre. Je pense qu'on arrive maintenant à convaincre les enseignants. Mais il faut que ça aille dans tous les centres de formation maintenant, formation initiale et puis surtout formation continue, parce qu'on a un nombre considérable d'enseignants. En France, ce sont plusieurs centaines de milliers d'enseignants qui, en fait, dans les années passées, n'ont pas reçu beaucoup de formation.
Sur les inégalités, il y a une inégalité aussi du sommeil qui dépend aussi des inégalités sociales. Notre sommeil sera aussi plus ou moins impacté en fonction de l'espace de la chambre, du bruit. Et vous rappelez dans ce livre et aussi dans votre livre précédent que c'est l'une des conditions, ce sommeil, pour optimiser l'apprentissage. Précisez ça, s'il vous plaît.
Ah oui, ça va pas de soi, mais c'est une découverte des neurosciences que je raconte dans Apprendre. C'est le cerveau travaille pendant le sommeil. Nous dormons, mais notre cerveau continue d'être actif. Et lorsqu'on se réveille le matin, il y a eu consolidation des apprentissages de la veille. En fait, on a découvert chez l'animal et ensuite chez l'homme que les neurones rejouent pendant le sommeil, ce qu'ils ont eu pendant la veille, ce qu'ils ont travaillé pendant la veille. Rejoue les épisodes importants. Ce replay, on dit en anglais, rejouer, ça va beaucoup plus vite que dans la réalité. Ça peut aller jusqu'à 15 fois ou 20 fois plus vite que dans la réalité. C'est-à-dire que notre cerveau tourne à toute vitesse les événements importants et les consolide. Et donc, effectivement, des recherches empiriques montrent que la qualité du sommeil détermine les apprentissages. Les enfants qui se couchent trop tard ont de moins bons résultats scolaires.
Et cependant, l'adolescent se couche tard, a donc besoin de se lever plus tard. Or, on continue de mettre des horaires scolaires relativement tôt, trop tôt pour eux.
Là encore, il y a des recherches empiriques, hein, à Seattle notamment. On a choisi aléatoirement certaines écoles dont on a décalé l'horaire d'entrée, uniquement pour les ados, hein, parce que c'est la phase de sommeil se décale à l'adolescence.
Avec eh bien, les écrans aussi, utilisés jusqu'au fort tard.
De plus en plus, malheureusement, on a un cerveau stimulé, effectivement, peut-être surstimulé. Il faut éviter cette stimulation au moment de s'endormir. Mais donc, décaler l'entrée à l'école a eu des résultats positifs, non seulement sur les résultats scolaires, hein, mais sur bien d'autres paramètres, comme l'obésité, etc.
Voilà, donc votre livre « La science au service de l'école », premier travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. On va peut-être rappeler aussi la vocation de ce Conseil scientifique de l'éducation nationale que vous présidez. Ce sont 23 chercheurs, des chercheurs chargés d'apporter un éclairage scientifique sur les grands enjeux de l'éducation de notre temps. Y a-t-il encore d'ailleurs de fortes réticences entre ces deux mondes, les enseignants d'un côté, les scientifiques que vous représentez de l'autre?
Alors moi, mon impression est que l'institution est maintenant tout à fait habitué à l'idée que les scientifiques ont un regard à apporter à l'éducation nationale.
Mais est-ce que les enseignants sont d'accord pour travailler avec vous ?
Les enseignants eux-mêmes, écoutez, c'est un travail en cours, mais je crois que beaucoup se rendent compte que ce qu'on a découvert en science, ils auraient dû l'apprendre en formation.
Et qu'on leur a pas enseigné. Y compris sur l'intelligence artificielle, sur laquelle c'est un des nouveaux axes sur lesquels vous avez
travaillé. Oui, alors on a un groupe de travail sur l'intelligence artificielle avec Aurélie Jean qui a accepté de participer. L'intelligence artificielle, oui, il peut y avoir des applications pédagogiques, je pense, intéressantes. On va voir ce que ça donne. Je pense que l'être humain et l'enseignant restent au cœur du métier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par exemple, qu'en complément de classe, l'utilisation d'une tablette avec un logiciel pédagogique bien ciblé, hein, pour la lecture notamment, ça peut vraiment aider les enfants.
Quand vous dites que votre vocation, c'est de donner plus d'amplitude à l'enseignant pour qu'il puisse réussir sa mission, quels sont les types d'outils que le neurosciences pourrait mettre facilement à disposition de l'enseignant?
C'est pas tant les neurosciences. Les neurosciences sont, je dirais, assez loin de l'école. Mais il y a toute une chaîne de preuves qui peut aller effectivement du mécanisme dans le cerveau jusqu'à la psychologie, puis la mise en œuvre sociologique ou en économie. On a Esther Duflo, par exemple, dans le Conseil scientifique, qui vient de recevoir le prix Nobel d'économie pour ses travaux expérimentaux. C'est toute une approche expérimentale qu'on essaye d'injecter à l'école. Et un de nos travaux pour cette année, ça consiste à mettre en place un système d'expérimentation plus efficace à l'éducation nationale. Ça veut dire il y a des tas de questions pour lesquelles on n'a pas la réponse. Est-ce qu'il faut faire, par exemple, des binômes en classe? On pense que oui, il y a des travaux internationaux qui pensent que c'est intéressant d'avoir des binômes. Mais il faut l'expérimenter à l'école française. Ça veut dire être capable de randomiser, avoir des nombres d'élèves suffisants, et puis faire tout ça dans un cadre éthique. C'est très important, ne pas perturber les apprentissages des enfants. Et tout cela, donc nous allons faire des recommandations sur la bonne manière de mener des expérimentations à l'éducation nationale.
Et les manuels scolaires, est-ce qu'il vous semble, est-ce que le neurologue que vous êtes à la tête de ce conseil scientifique de l'éducation nationale, est-ce que les livres scolaires, les manuels sont adaptés aujourd'hui à l'épanouissement scolaire de l'enfant.
Disons qu'il y a du boulot.
Bon,
dites-le sans, avec moins de diplomatie.
Il y a un chapitre dans la science sociale
c'est pour ça que
de l'école.
C'est pour ça que vous
on s'est penché sur les pédagogies et les manuels scolaires en lecture. Et quand même, d'abord, il y en a 35 actuellement. Le choix se fait un petit peu au petit bonheur.
Quelquefois, ils sont en contradiction les uns avec les autres.
Alors, ils sont totalement en contradiction les uns avec les autres. Et je dois dire, avec ma plus grande surprise, il y a encore des manuels qui, dès la première semaine d'école, promeut une méthode globale. Et on demande à l'enfant de deviner une phrase complète. Il y a un manuel très connu, je citerai pas de nom, mais qui dit « Première semaine, vous allez lire « Il y a des garçons et des filles à l'école ». Alors, garçon, fille, réfléchissez, c'est des mots extrêmement irréguliers, avec CCDI, deux L qui se prononcent IE, etc. C'est absurde. Un gamin à qui on n'a pas appris les bases de la lecture ne peut rien faire avec ça, ne peut que deviner. Alors, je sais, on va me dire, les enseignants ne font pas ça. J'espère, effectivement, qu'ils ne font pas ça. Mais alors, pourquoi le manuel est organisé comme ça? Pour réduire les inégalités, c'est très important d'avoir de bons manuels, notamment pour les enseignants débutants. Les enseignants expérimentés s'en sentir toujours. Mais pour les enseignants débutants, c'est très utile d'être guidé jour après jour. C'est difficile. C'est difficile d'arriver dans la classe et démarrer comme ça avec des enfants tous les jours. Un bon manuel, ça vous guide et on explique dans ce livre que devrait être un bon manuel pour la lecture.
La science au service de l'école, premiers travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Que vont devenir les conclusions de ce livre? Je vous pose la question à vous, Stanislas Dehaene, qui soufflait à l'oreille du ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.
Ah vraiment, je crois que Jean-Michel Blanquer, qui a créé ce conseil scientifique, est très attentif à ses conclusions, vient presque systématiquement à nos réunions plénières et relaie ses messages. Ces messages sont relayés, par exemple, ceux sur la lecture, aux 1500 inspecteurs de l'éducation nationale qui les connaissent et qui essayent de convaincre les enseignants de s'en emparer.
Et il nous reste quelques secondes, je voulais revenir sur l'un des piliers pour l'apprentissage, et là on fait référence plutôt à votre ancien livre, même si vous le mentionnez encore dans ce nouveau livre, mais plus rapidement, le rôle de l'engagement pour l'élève. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un élève engagé, indispensable pour épanouir son apprentissage?
Dans le cerveau, plus on fait attention et plus on génère à l'avance des hypothèses sur ce qu'on va recevoir, meilleur est l'apprentissage. Donc c'est ça l'engagement actif. C'est un élève qui mobilise toutes ses ressources mentales pour essayer de comprendre et approfondir le message qui est reçu de l'enseignant. Éviter le superficiel, autrement.
Et là encore, apprendre de ses erreurs, c'est essentiel.
Alors l'erreur, ah oui, bien entendu. On devrait vraiment décomplexer l'erreur. L'erreur, ça n'est pas un symptôme d'avoir mal travaillé, c'est un symptôme d'être en cours d'apprentissage.
Donc il ne faut pas se faire engueuler quand on s'est trompé.
Ah, bien sûr que non, au contraire, il y a des... on citait à l'instant un élève qui sort d'une classe américaine. Ah, je me suis trompé, c'est génial, j'ai compris pourquoi, je vais pouvoir progresser.
Apprendre de ses erreurs, l'une des leçons que l'on retiendra de ce livre. La science au service de l'école, sous votre direction, ce livre Stanislas Dehaene. Ce sont donc les premiers travaux du Conseil scientifique de l'éducation nationale et ça ne servira pas co-professeur, ça sert aussi un peu à tout le monde dans la famille,
aux parents
exactement. Merci beaucoup Stanislas Dehaene d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 8h38.